Europe 1.
Le journal de 6h. Elham Medjahed, bonjour Elham.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Près de 6 mois après le suicide de Lucas dans les Vosges, 4 adolescents seront fixés sur leur sort ce matin.
Ils sont accusés de harcèlement à l'encontre du jeune de 13 ans qui a mis fin à ses jours après avoir laissé une lettre. Dans ce courrier, Lucas disait être victime d'insultes à caractère homophobe dans son collège. Alors Lucas, a-t-il été poussé au suicide à force d'être harcelé? C'est la question au cœur de cette affaire au tribunal pour enfants d'Épinal. 4 jeunes du même âge que Lucas sont jugés, Mélina Fachin.
Oui, 2 garçons et 2 filles du même âge que Lucas, 13 ans, scolarisés dans le même collège que lui à Golbey dans les Vosges. La famille de Lucas est convaincue que c'est le harcèlement répété dont il faisait l'objet à cause de son homosexualité et qui l'a poussé au suicide le 7 janvier dernier. Mais la justice, elle, est moins catégorique. Lors de l'audience qui s'est tenue à huis clos au mois d'avril, le parquet a estimé qu'on ne pouvait pas formellement établir un lien de cause à effet entre le harcèlement et le suicide. Les derniers faits de harcèlement avérés remontent à novembre, soit plus d'un mois avant le décès du garçon. Celui-ci avait bien laissé un mot pour annoncer qu'il allait mettre fin à ses jours, mais sans donner davantage d'explications. Si les 4 adolescents sont déclarés coupables ce matin, une autre audience sera fixée pour déterminer leur peine. Elle peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 7 500 € d'amende. Les avocats de la défense, eux, ont demandé la relaxe de leur jeune client.
Mélina Fachin pour Europe 1 qui suivra le procès dès ce matin 8h30 au tribunal pour enfants d'Épinal.
Le harcèlement scolaire revient régulièrement à la une de l'actualité ces derniers mois.
L'affaire Lucas donc, mais aussi l'affaire l'INSEE. La collégienne de 13 ans s'est donné la mort le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais. L'INSEE aussi était alertée sur le harcèlement qu'elle subissait pendant des mois à l'école et sur les réseaux sociaux. Un appel à l'aide à bout de souffle jusqu'à l'Élysée. L'adolescente qui avait écrit au président Emmanuel Macron et à sa femme Brigitte avant de se donner la mort. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale s'empare du drame ultra-médiatisé. Pap Ndiaye doit recevoir la famille de l'INSEE cet après-midi à 16h en présence de leur avocat.
Emmanuel Macron est en Normandie aujourd'hui pour célébrer le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel.
Oui, accompagné de son épouse Brigitte, le président est attendu dans les prochaines heures pour un discours sur ce joyau du patrimoine français. Présent également les ministres de la transition écologique Christophe Béchu et de la culture Rima Abdul-Malak. Le Mont-Saint-Michel, symbole de la permanence et de la résistance de la France face aux éléments, selon l'Élysée, un déplacement mémorial qui s'inscrit dans la tradition des présidents, selon Frédéric Éric Dabi, directeur de l'IFOP. Il est au micro Europe 1 de Pierre Neuvilleneuf.
Le président est dans son rôle. Il s'inscrit dans la tradition des présidents de la République qui est d'incarner une forme de France éternelle, une forme de rassemblement, une forme d'unité du pays. Et ça, les Français l'acceptent. On ne dira pas « Ah, mais bon, entorse à la laïcité ». Les présidents sont dans leur rôle, mais attention. D'une part, ça ne rapporte pas grand-chose en termes de popularité, ça fait partie de la panoplie présidentielle. Mais également, très vite, les Français décodent ce type de stratégie. Il va y avoir une critique en termes de stratégie dilatoire. Au lieu de faire face à l'opposition à la réforme des retraites, il va être dans une logique de président au-dessus du débat.
Et après le Mont-Saint-Michel, direction demain les plages du débarquement dans le Calvados, Emmanuel Macron rendra hommage aux soldats morts le 6 juin 1944, le D-Day, jour du lancement de l'opération militaire pour libérer la France et le continent européen de l'occupation nazie.
6h04 sur Europe 1. Des annonces très attendues aujourd'hui, Elham, pour tenter d'enrayer la crise du logement.
Le gouvernement doit dévoiler cet après-midi une série de mesures, dispositions techniques tirées des discussions du Conseil national de la refondation. La première ministre Elisabeth Borne est chargée d'annoncer ce plan. Il prévoit notamment la prolongation jusqu'en 2027 du prêt à taux zéro pour favoriser l'accession à la propriété. Mais peu de mesures concrètes pour soutenir l'offre. Pour Pascal Boulanger, il y a pourtant urgence à aider les acteurs du secteur immobilier. Faute de quoi, toute la filière sera menacée selon le président de la Fédération des promoteurs immobiliers.
2022 a été pire que 2020 et je suis certain que 2023 sera bien pire que 2022. On touche le fond de la piscine. Les projets ont du mal à sortir, défaut d'acquéreurs et pourtant c'est le moment d'acheter, c'est ça qui est complètement paradoxal. Il y a une crise sur l'offre, il y a une crise sur la demande, il y a une crise sur les matières premières, il y a une crise sur les financements. Il faut prévoir des mesures pour ce malade chronique qui est le logement. Et puis il y a aussi aujourd'hui ce malade chronique qui est arrivé aux urgences et il faut des mesures électrochocs. On a demandé une aide pour les maires bâtisseurs parce qu'on avait un problème d'offre. On a demandé aussi des mesures qui concernent plutôt la Banque de France. Est-ce qu'on ne peut pas revoir le taux d'usure? Est-ce qu'on ne peut pas le supprimer à titre temporaire? Revoir les conditions d'endettement des ménages? Si les mesures qui sortent sont un petit peu celles que nous attendons, il n'y aura pas de faillite. Si les mesures qui sortent ne sont pas suffisamment efficientes, il risque d'avoir des promoteurs en danger.
Des propos recueillis par Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.
Et à 6h40, je recevrai Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment. On le fera réagir à ces quelques annonces qui ont déjà fuité concernant la crise du logement. Direction maintenant les terrains de football, Elam, puisque Zlatan Ibrahimovic tire sa révérence.
Le moment est venu de vous dire au revoir, mais également au monde du football. C'est vraiment difficile, vraiment difficile. Je suis vraiment très ému.
Et voilà, l'attaquant suédois de 41 ans qui arrive en fin de contrat avec l'AC Milan prend sa retraite après 23 ans de carrière. Un hommage lui a été rendu hier soir par le public milanais. Sur son CV, pas moins de 9 clubs professionnels, entre autres l'Ajax, la Juventus, l'Inter Milan, le Barça ou encore le PSG. Autre départ dans le monde du ballon rond, Karim Benzema quitte le Real Madrid. L'attaquant français doit poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Le joueur de 35 ans a passé 14 ans dans le club de la capitale espagnole.
Merci Alam, c'était votre journal de 6h sur Europe 1.
C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux.